Daí é um bruxa.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, et dans deux cortèges.
En direct via le studio 511, une émission conduite par Céline Hila, assistée en gare par June Loper, avec Philippe Duclos à l'aiguillage.
Au sommaire cette semaine, 2018, c'est à nous. Aujourd'hui, Comme un bruit vous fait revivre la manif du 22 mars, 50 ans jour pour jour après le début des événements qui menèrent à mai 68. Toute la fonction publique était dans la rue, et nous aussi, pour prendre le pouls de la contestation à la veille de nouvelles réformes au nom de l'efficience. Mais d'autres voies sont possibles, démonstration et analyse avec l'économiste atterré Thomas Porcher.
Chers camarades, chers collègues, merci d'avoir répondu à l'appel pour participer à cette manifestation des cheminots qui fera date.
Approchez, mesdames et messieurs. Les assassins du service public sont ici. Et si vous ne les dégommez pas, ce sont eux qui vous dégomment.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la voix qui court ?
Comme un bruit qui court et qui est peut-être parti pour durer, comme en 95 ou en 68, qui sait ? Qui court au rythme des soignants qui ne cessent de cavaler vers toujours plus d'efficience, de rentabilité. Suicide, burn-out, l'hôpital public est en train d'exploser. Les soignants sont à bout, mais rien n'y change. Il faut poursuivre cette course effrénée, augmenter la cadence des réformes, encore un effort, encore un milliard à économiser. Car il faut se souvenir que si en décembre 95, la mobilisation massive avait permis de mettre en échec le plan Juppé sur les retraites et les régimes spéciaux, le volet sur la maîtrise comptable des dépenses de santé, lui, était passé. Et c'est bien ce volet du plan Juppé qui a donné le coup d'envoi à la transformation de l'hôpital en une entreprise rentable. Ainsi, on continue de creuser tous les gouvernements suivants, de gauche comme de droite, et dont on voit aujourd'hui les effets. C'est aussi pour cela que, malgré les propos d'un ancien président, aujourd'hui mis en examen, qui prévoyait que désormais, quand il y aurait une grève, cela ne se verrait plus, ils étaient nombreux dans la manif ce jeudi 22 mars pour défendre les services publics. Un ancien président qui n'a plus le vent en poupe et que son ami, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qualifie ainsi.
Ce monsieur est un sale type, est un criminel, est un monsieur minus et il ne mérite même pas de lui répondre. Qu'il réponde à la justice.
Alors en attendant l'issue de cette affaire judiciaire sans précédent, c'est dans la rue que nous allons pour célébrer le début du printemps.
Oui, puisque tout France Inter, vous l'avez remarqué, commémorait cette semaine mai 68 en évoquant le mouvement du 22 mars qui avait lancé la mobilisation. Et comme un bruit qui court a suivi un autre 22 mars, celui de ce jeudi de 2018. À Paris, deux cortèges ont convergé vers la place de la Bastille où se sont retrouvés cheminots et défenseurs des services publics pour dénoncer la casse dictée par l'austérité et les plans de départ des fonctionnaires.
Oui, des convergences politiques et syndicales pour défendre le service public. Politique avec un appel unitaire signé par la plupart des forces de gauche, même si ça coince encore un peu. Et syndicale avec une intersyndicale large, mais que certains trouvent un peu timorée, tant l'enjeu est grand et que le printemps 2018 mérite bien une grève reconductible et générale. Parce que l'offensive est générale, quand l'offensive est générale, le débordement doit l'être tout autant.
Ouais, ça c'est du lordon dans le texte que tu cites. Mais je te répondrai à ça, que notre pays est bloqué à cause d'un marché du travail trop rigide, avec un code du travail trop lourd et des syndicats peu représentatifs qui manipulent les étudiants pour bloquer les réformes nécessaires. C'est en tout cas le refrain que les éditorialistes responsables nous tiennent depuis trois décennies. Et pour le déconstruire, nous sommes allés retrouver aussi l'économiste atterré Thomas Porcher qui vient de publier son traité d'économie hérétique chez Fayard et qui a ce sous-titre « Pour en finir avec le discours dominant ».
Alors jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court dans tous les sons, dans tous les sens et dans deux cortèges avec une question, quel printemps pour 2018 ?
Ne nous voilons pas la face. Si nous voulons sauver le transport ferroviaire, disons-le clairement, nous devrons prendre des décisions.
Aujourd'hui, notre colère s'exprime dans la rue, tout autant que nos exigences.
C'est le premier défi social d'ampleur pour Emmanuel Macron.
Ce qui est en jeu, c'est d'adapter le statut de la fonction publique, qu'il puisse redevenir un cadre efficace pour l'action publique.
Les gens n'en peuvent plus.
ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués parce qu'à force de trop demander, de tirer sur la ficelle, c'est plus possible, à crac.
Près de 180 cortèges dans toute la France aujourd'hui pour s'opposer aux réformes portées par l'exécutif.
Notre manifestation nationale est déjà une réussite extraordinaire.
Profs, cheminots, contrôleurs aériens, fonctionnaires, les syndicats appellent les Français à descendre dans la rue.
Plus de contractuels, statut assoupli, plus de rémunération au mérite. Vous touchez à trois fondamentaux quand même de la fonction publique, vous assumez ?
Nous assumons et nous considérons que c'est même un préalable essentiel.
Est-ce que vous avez envie d'en découdre les cheminots ? Ouais ! Est-ce que vous avez envie de vous laisser faire les cheminots ?
Non ! Comme un bruit qui court.
Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation.
Antoine Chao.
J'ai l'impression, moi.
Charlotte Perry.
On nous prend pour vraiment des ânes battés, quoi. Des gens ignares qui ne comprennent rien du tout à la politique. Et ça, c'est pas vrai.
Hashtag comme un bruit.
Gare de l'Est, 22 mars, 13h. C'est le départ du cortège des cheminots.
Faisons en sorte que dans les rues de Paris, nous entendions les slogans qui nous rassemblent aujourd'hui et demain.
Moi, je suis relativement confiant dans les Français et que je crois qu'ils sont parfaitement lucides sur l'état de la SNCF. Ils voient bien qu'une entreprise qui perd 3 milliards d'euros par an, ça ne peut pas continuer comme ça.
Mais sur Paris, il n'y a plus de 1000 grévistes aujourd'hui.
Ouais,
c'est du jamais vu.
Ouais,
mais ça fait plaisir parce qu'il y a des camarades qu'on n'a pas revus depuis longtemps, il y a des copains qu'on n'a pas vus depuis 2014, d'autres depuis bien plus longtemps. Il y a quasiment plus de 350 grévistes lundi, plus de 200 grévistes sur l'établissement, un frein circulation, il y a plus de 300 grévistes chez les commerciaux, plus de 400 grévistes dans les métiers du fret. C'est énorme, les camarades, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a nos camarades de la CGT qui sont malheureusement à côté, mais on fera en sorte que le 3, on fera en sorte que le 3, ils soient avec nous et qu'ils reconduisent, parce que même eux, ils disent, mais nous, on est prêts à faire une reconductible. Et ben on va la faire, cette reconductible, les camarades. Alors le 3, on se voit en AG et puis on s'arrête plus. On y va, 2018, c'est à nous. 2018, c'est notre année. Bravo à tous, les camarades.
On est massifs, les cheminots sont en colère.
Chers collègues, merci d'avoir répondu à l'appel de l'interfédérale CGT, UFSA, Sud et CFDT.
Prise de parole à 13h30 devant la gare de l'Est.
C'est le cortège des cheminots qui fera date.
Il va démarrer d'ici et qui va rejoindre la place de la Bastille et l'autre cortège donc de défense de la fonction publique. Qui se réunit à Bercy à 14h pour rejoindre la Bastille aussi donc. Et converger avec les cheminots.
Nous sommes attachés au service public. Nous sommes attachés à la SNCF, que nous aimons les trains, que nous aimons la SNCF, que nous aimons le travail qui est fait par les cheminots. Et simplement, comme on veut que ça continue, et parce que nous sommes attachés à ces services publics, nous voulons les transformer.
Je fais grève, clairement, aujourd'hui, c'est pour le statut.
Et, vous êtes cheminot, vous ?
Oui, ouais. Non syndiqué, mais cheminot, oui. J'ai 32 ans et je me suis embauché à l'âge de 17 ans.
Et vous faites quoi alors à la SNCF ?
Je suis au dépôt d'HR, je suis sur la maintenance des vieilles locomotives, clairement, les locomotives électriques.
C'est quoi qui vous inquiète aujourd'hui ?
Clairement, c'est la casse du statut et faut aussi, faut pas oublier, faut penser à l'avenir. Parce que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est laisser le statut pour les cheminots, les anciens, mais il faut penser aux jeunes aussi. Les jeunes, c'est qui ? C'est nos enfants, c'est vos enfants. Et personnellement, j'ai pas envie d'une précarisation du métier.
Vous l'avez le statut de cheminot ?
Oui, je l'ai le statut. Et je viens clairement pour les jeunes et pas pour moi. Moi, le but du jeu, c'est pas que je sois le dernier à avoir le statut, c'est que tout le monde ait le statut. Parce que le progrès, selon moi, c'est tirer les choses vers le haut et non pas vers le bas. Et même s'il y en a qui sont pas forcément là, parce que peut-être qu'il y a des cheminots qui doivent garder leurs enfants, croyez-moi, ils sont chez eux pour une bonne raison aussi.
Là, ça démarre bien quand même, non? Il y a pas mal de monde, on dirait.
C'est l'impression que ça me donne.
C'est vrai qu'on a reculé depuis des années devant ces décisions difficiles, mais aujourd'hui, il faut les prendre. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une SNCF qui marche mieux, qui devient compétitive et qui reste ce grand service public qui fait la fierté de tous les Français.
On va y aller, on va aller chercher les collègues, on va aller chercher du monde, on va s'organiser, on va commencer à monter des caisses de grève sur Paris Nord, parce que le pognon, c'est une réalité, c'est un problème, c'est le problème de tout le monde, on se connaît tous, hein. Le calibré à 10 euros près, on est capable de savoir c'est quoi ça paye à la fin du mois. Il n'y a pas de milliardaires à la SNCF. Ils essayent de faire croire qu'il y a des privilégiés, et on sait que nous, on n'est pas des privilégiés.
Il y a Pierre Laurent qui est là, le secrétaire national du Parti communiste, devant la gare de l'Est, pendant la prise de parole avant le départ du cortège.
La journée d'aujourd'hui est très symbolique. On a le cortège des cheminots et des électriciens et gaziers qui défendent le service public. On a le cortège de la fonction publique sur des revendications de défense de tous les autres services publics, l'hôpital, l'école, les tribunaux, la justice. Et tout ça va converger. Et il faut aussi que les salariés du privé, d'ailleurs, qui sont des usagers de ces services publics et qui sont eux-mêmes confrontés à des politiques de licenciement, des politiques de bas salaire, voilà, se lèvent. Il faut travailler à cette convergence à partir des revendications de chacun, mais dont, en avançant, on verra quelles sont les revendications de tous. Donc je pense qu'il y a un nouveau tous ensemble à inventer, à construire. Parce qu'on a un pouvoir Macron qui se révèle en fait très autoritaire, très offensif pour casser les services publics, pour faire avancer des politiques en faveur des privilégiés. Donc face à ça, il faut un front très très large, le plus large possible. Donc évidemment, il faut que les forces de gauche soient actives dans ce front et qu'elles montrent l'exemple. Donc moi, j'ai été très actif la semaine dernière pour qu'on obtienne cette déclaration commune. Il faut continuer dans cette voie-là. Donc il faut de l'unité dans les territoires, dans le pays, à la base, entre les usagers, les salariés des services publics. Il faut de l'unité dans les entreprises. Et c'est bien qu'à la SNCF, il y a un front syndical commun. Et puis, il faut de l'unité autour d'eux, et forcément à gauche. Et j'ai envie de dire même au-delà, parce que là, c'est vraiment l'avenir du pays. Les services publics, c'est vraiment ce qui constitue en France, c'est sur quoi reposent toutes les politiques d'égalité. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde.
Chers toutes et tous, la manifestation va bientôt s'ébranler. J'ai en souvenir, en 2007, un président de la République qui aujourd'hui est mis en examen et qui avait déclaré que depuis le service minimum, on ne verrait plus les manifestations. Alors, très chers camarades, démontrons le contraire. Levons les drapeaux, soyons fiers. Soyons fiers d'être cheminotes. Soyons fiers d'être cheminots. Et défilons pour cette manifestation historique. Excellente manifestation à tous. Musique.
Près de 180 manifestations dans toute la France. Journée d'action des fonctionnaires et des cheminots. Les fonctionnaires défendent leur pouvoir d'achat. À Paris, ils viennent de s'élancer de Bercy et vont eux aussi converger vers la place de la Bastille.
Profitez-en. Ça fait du bien. Approchez, mesdames et messieurs. Les assassins du service public sont ici. Et si vous ne les dégommez pas, ce sont eux qui vous dégomment.
Et voilà, on s'amuse au Chamboultou, au stand d'attaque, à côté de Bercy, d'où est partie la manifestation.
Et ça fait du bien.
La dame, elle visite de toutes ses forces le portrait d'Emmanuel Macron au Chamboultou.
Bravo ! Allez, on s'applique. Oh, quel dommage ! Il y a 60 milliards à gagner. Un bon donné à 60 milliards à madame.
Et on leur donne des faux billets de 60 milliards. C'est quoi les 60 milliards ?
C'est l'évasion fiscale en France, par an.
Et là, on est au stand d'attaque. Et attaque, vous avez gagné. contre Apple récemment.
Oui.
Parce que rappelons-le, Apple poursuivait Attac pour les interdire de manifester dans les magasins Apple contre l'évasion fiscale du groupe.
Et finalement, on est déclaré d'intérêt général, c'est beau, hein ?
Faut se dépêcher, hein.
Attendez, ça, faites gaffe, vous allez vous prendre une balle, là. Vous êtes tout près du portrait de Gérald Darmanin.
Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai trop envie de rester à côté de lui.
Ah, j'avais pas vu, vous avez rallongé le portrait de Emmanuel Macron avec une cravate sur laquelle il y a écrit MEDEF.
Je ne sais pas si elle va tenir très longtemps, la cravate.
J'ai vu, les gens le visent beaucoup, la cravate, en fait.
J'ai l'impression, ouais. Ça doit vouloir dire quelque chose, certainement.
Et alors, qu'est-ce qu'Attac fait dans cette manifestation pour la défense des services publics? Parce qu'Attac, normalement, c'est contre l'évasion fiscale, c'est contre la financiarisation de l'économie.
Et pour l'action citoyenne. On est pour des services publics de qualité. On revendique que tout ne doit pas être rentable, que les élèves ne sont pas des clients, qu'on veut juste pouvoir avoir droit à une éducation, une santé, des transports de qualité sans que... Tout ça passe forcément par les mains des financiers, des oligarques qui veulent juste privatiser les profits. Globalement, j'ai l'impression que les gens commencent à prendre conscience quand même que de l'argent, il y en a. C'est pas le problème de l'argent, c'est le problème plutôt de ce qu'on en fait. Et sur l'évasion fiscale, on a l'impression que ça commence à rentrer dans les esprits. Le fait qu'il y a de l'argent, il faut juste aller le chercher et bien le rediriger.
Il y a votre collègue là qui est derrière, qui ramasse les balles et qui se prend tous les coups.
Ouais, bon... On représente aussi un peu le service public aujourd'hui, alors c'est normal qu'on se prenne des coups.
Bravo !
Moi, je suis comptable de la bonne gestion de l'argent des Français. Il n'y a pas de cagnotte.
Et comment peut-on parler de cagnotte fiscale quand on est dans un pays où il y a 2000 milliards d'euros de dettes ?
Dans un pays qui a 2000 milliards de dettes ?
Il y a 2000 milliards d'euros de dettes.
La vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cagnotte fiscale.
Il n'y a pas de cagnotte.
La vérité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de réformes de structure.
Donc il faut d'abord assainir les finances publiques.
Qu'on comprenne dans ce pays qu'on a besoin de réformer en profondeur.
Réduire la dépense, réduire la dette et ensuite redistribuer.
Est-ce que vous, vous êtes sur l'optique, quelle que soit la grève et quelle que soit la durée de la grève, on tiendra ?
Oui, nous tiendrons.
Thomas Porcher, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver cette semaine en particulier parce que ça fait un bout de temps qu'on vous voit prêcher contre le dogme qu'on entend répercuter tous les jours depuis quelques décennies maintenant de l'efficience des marchés, de la rigueur de la dette. Sauf que vous, voilà, vous avez un discours des économistes atterrés, mais vous allez vous adresser à ceux qui ne sont pas nécessairement acquis à vos thèses, c'est-à-dire que je vous vois souvent sur BFM, je vous vois souvent sur LCI, je vous vois souvent sur les chaînes de flux et d'infos boursières en continu.
Oui, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut refuser, moi je pense qu'il faut aller au combat, parce que oui c'est un combat d'idées, même si parfois on est minoritaire, il faut y aller quand même. Déjà que moi je trouve, et c'est ce que je dis un peu dans mon traité d'économie hérétique, c'est que si on ne crée pas finalement un débat pour que l'on puisse expliquer aux gens que d'autres types de politiques économiques sont possibles en France, eh ben, le débat sera toujours fermé. Or, ça fait 30 ans que l'on applique le même type de réforme économique, qu'on va dans le même sens, alors on va chaque fois de plus en plus loin en nous disant que ça va marcher, mais si on tire un bilan de ce qui a été fait, ça n'a pas réellement fonctionné. Et donc, il faut le rappeler, et c'est pour ça que quand on m'invite, moi je dis toujours oui pour aller débattre sur des thèmes économiques. Enfin, Thatcher disait dans les années 80 « There is no alternative ».
Tina.
Voilà, Tina. 30 ans plus tard, Emmanuel Macron vous dit « l'autre politique est un mirage ». Donc on vous explique finalement qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc il y a ceux qui sont dans le réel, dans le pratique, les libéraux, puis ceux qui sont en dehors du cadre, qui sont des fous furieux, des idéologues, des farfelus, qui eux n'ont pas le droit de donner d'avis. Or, c'est parfaitement faux. Et il faut justement débattre de ce que l'on pose comme des contraintes impossibles pour qu'il y ait cette autre voie. Par exemple, aujourd'hui, si vous dites « il faut investir dans les services publics », enfin, tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il faut plus de crèches. Vous avez demandé une crèche à la mairie, on vous dit « il n'y a pas de place pour tout le monde », c'est un peu la loterie, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors on dit « il faut des investissements d'État pour créer plus de crèches ». Alors tout le monde est d'accord, mais on vous dit « oui, on est d'accord, mais on n'a pas les moyens à cause de la dette ». Ah bon, bah voilà, bah négocions, discutons de cette dette.
Parce que la dette, c'est, voilà, c'est l'argument massue du gouvernement, à savoir, cette dette, il va falloir qu'on la règle. Voilà des années qu'on met la poussière sous le tapis, faisons face et prenons des mesures difficiles mais nécessaires.
Alors c'est un véritable bourrage de crâne qu'il y a chaque matinale, quand vous avez Benjamin Griveaux, Bruno Le Maire ou tout autre député de La République En Marche, il vous dit toujours la même phrase, oui nous devons, la dette est un problème que nous ne pouvons pas laisser aux générations futures. Bon bah très bien, il vous dit ça. Alors c'est très marrant parce que dans le même sens ils sont capables d'offrir 20 à 24 milliards aux entreprises et aux ménages les plus riches et se priver de ses rentrées budgétaires en baissant la fiscalité, là la dette n'est plus urgente, mais quand il s'agit d'investir dans les services publics, là on n'a plus d'argent. d'argent à cause de la dette. Donc il y a une espèce de géométrie variable dans le traitement de la dette. Si c'est urgent, ben faisons en sorte de la rembourser. On a déjà eu 200% de dette à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On s'est empressé de la rembourser très rapidement en taxant les très hauts revenus, en jouant avec l'inflation et en renégociant cette dette en partie. Aujourd'hui, aucune de ces méthodes n'est mise sur la table. La seule méthode qui est mise sur la table, elle est de couper dans l'investissement public et dans les services publics et dans le nombre de fonctionnaires pour espérer rembourser cette dette. C'est ce qui a été fait en Grèce. La dette a augmenté, n'a pas été résorbée. Donc ce n'est pas une solution, et c'est une solution surtout où les populations souffrent. Alors aujourd'hui, on vous dit oui, il faut faire un effort, mais en réalité, ce n'est pas efficace. Et ce sont toujours les mêmes qui font des efforts. Parce que quand vous retirez 60 milliards sur la dépense publique, il y a un moment où c'est coupé quelque part. Voilà. Donc c'est coupé dans l'investissement et dans les moyens qui sont donnés à la police, aux écoles.
Vous voulez dire que ce n'est pas toujours pour une meilleure et plus efficace gestion ?
Mais écoutez, Emmanuel Macron veut économiser 15 milliards sur l'assurance maladie. Donc ça veut dire qu'il va moins rembourser des médicaments, soit il prend moins en charge des soins. Enfin, il y a quelque chose où il va devoir couper. Il va y avoir un truc. Il ne peut pas faire une économie sur les 15 milliards comme ça. Donc là, on se rend bien compte que si vous baissez la dépense publique, il y a au final des gens qui ont moins de droits. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de magie. Donc ces contraintes qui sont posées au cadre de réflexion autorisée, il faut les débattre. La dette est un débat, la mondialisation c'est un débat parce qu'on ne peut plus rien faire à cause de la mondialisation également. La flexibilité, la libéralisation des services publics, c'est un débat aussi qu'il faut avoir. Il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'une seule voie et qu'on est obligé d'arriver à ce type de politique. Et c'est ça l'objet de mon livre, c'était vraiment de reprendre point par point toutes ces contraintes et de montrer que ce sont juste des épouvantails. Et qu'une fois que l'on sait, et ben là on va obliger les politiques à se justifier. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se justifient pas parce qu'ils posent cette contrainte directement. Emmanuel Macron a été le spécialiste de ça.
La dette nous guette. La diète. La diète nous guette. On nous inquiète. Nous alerte, nos budgets, on nous respecte, on nous achète, puis on nous jette, on nous rachète et nous rejette. Et comme tout part en sucette, il faut que ça pète, wow, 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 qu'on tire ensemble sur la gâchette, amis bandons nos arbalètes, que tous unis à la machette. Tous au canon à baïonnette, on ne ramasse plus les savonnettes et qu'on s'entête à faire stopper la tempête. La dette nous guette. La diète nous guette. La dette nous guette. La diète nous guette, on nous inquiète, nous alerte, nos budgets, on nous rouspète, on nous achète, puis on nous jette, on nous rachète et nous rejette, et on va se faire voir chez les Grecs.
Comme un bruit qui court.
Chers camarades, chers collègues, notre manifestation nationale est déjà une réussite extraordinaire pour son ampleur.
Cheminots CGT Strasbourg. Travailleurs du rail. Tous à la bataille. Travailleurs du rail, tous à la bataille. Un gréviste peut en cacher un autre.
Alors Gaël Pedraza, je suis secrétaire général de la CGT RATP Bus. Et oui, on est mobilisés, on est à fond et j'espère que ça va se poursuivre d'ailleurs ce mouvement et s'amplifier, puisque aujourd'hui c'est l'ensemble des services publics qui est attaqué. Et au-delà, c'est aussi celui de son personnel, bien évidemment, qui va avec. Donc ça veut dire que demain, il y a une privatisation, je dirais, générale, je vais le dire comme ça, de l'ensemble des services publics, y compris nous, on est très impactés aussi au niveau de la RATP. Il y a des changements, des orientations politiques aussi qui sont menées sur justement, et notamment dans le périmètre de bus, pour privatiser dès 2024, mais déjà ils préparent un certain nombre de choses avec des remises en cause sur les conditions de travail. Ils parlent déjà effectivement de transfert de personnel, donc on est déjà dans cette optique-là. Et le mouvement de la SNCF, celui de la fonction publique, des EHPAD, qui est en train de grossir ce mouvement-là, j'espère qu'il va continuer très largement. Et qu'ensuite, on sait que si ils arrivent à toucher à l'ensemble de ces droits, ce ne sera pas un bénéfice ni pour les usagers, ni pour les salariés de ces entreprises. Et que s'ils arrivent à faire passer ça à ce niveau-là, derrière, il y a tout ce qui est encore question sur les régimes de retraite, mais pas que les régimes de retraite, des régimes spéciaux, les régimes de l'ensemble, y compris du privé, qui veulent être remis en cause. Et donc, le bulldozer va passer si on ne fait rien. Donc, c'est privé, public, tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui est attaqué, au final.
Dans les services pour soigner les patients.
Bonjour.
Oui. Je vous entendais crier les slogans sur infirmières en colère, c'est ça?
C'est tout l'hôpital qui est en colère.
Mais notamment les soignants, oui. Plus ça va et plus c'est de pire en pire. On n'a plus les moyens de soigner les patients avec une prise en charge de qualité. Moins de personnel. Du coup, bah, la conséquence, c'est que les malades sont moins bien soignés, avec moins de moyens. Ça fait des années que ça dure, on n'en peut plus. Les soignants sont épuisés.
L'effectif des lits en plus. Hein. Ils augmentent les lits en plus, il n'y a pas de personnel.
Voilà.
Donc, ce qui fait que les patients, justement, on est en souffrance.
Et mais bien sûr, mais maintenant, le mot d'ordre à l'hôpital et notamment à la PHP, c'est l'efficience. L'efficience. On veut soigner les patients comme on gère une entreprise. Maintenant, ce n'est pas possible. Comment on peut faire des économies avec la maladie? Franchement, dites-nous comment c'est possible. Plus ça va, plus les gens sont précaires, les gens en peuvent plus. La conjoncture actuelle fait que les gens sont de plus en plus pauvres, misérables. Nous, notamment dans le 93, c'est vraiment le reflet de la misère sociale. Moi, je travaille aux urgences. Je vois des gens rester sur un brancard pendant 15 heures, des personnes âgées de 90 ans, à qui on nous demande de faire des soins en qualité et en quantité. C'est pas possible. On fait ce métier-là parce qu'on l'a choisi. Mais aujourd'hui, on est des robots. On fait les soins comme des robots. La notion d'humanité a disparu à l'hôpital, dans un lieu où normalement on est censé être à l'écoute des malades.
Parce que quoi, l'objectif c'est la rentabilité, c'est épurer les comptes, c'est épurer la dette de la santé.
Le mot d'ordre maintenant c'est l'efficience. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle avec nos directions, sans cesse on leur dit mais on n'a pas de moyens, on n'a pas de matériel, on n'a pas de brancard neuf, on manque de personnel. Mais on nous dit mais non, là il va falloir augmenter les lits dans les services. Plus ça va, plus le soignant est éloigné du soin aujourd'hui. On nous met dans la logistique, on nous met dans les commandes. Maintenant, une infirmière, c'est un manutentionnaire, c'est un laborantin, un coursier. C'est plus un soignant, il fait des commandes, mais il passe de moins en moins de temps auprès du malade. Et ça, pour un soignant, c'est pas possible.
Et c'est pour ça que vous êtes dans la manifestation?
Tout à fait, tout à fait, parce que aujourd'hui, on entend, j'ai bien entendu dans les médias que... c'était toujours les mêmes revendications, c'était toujours la même chose.
Les privilégiés qui veulent profiter de leur statut.
Tout à fait, mais c'est pas vrai. Depuis 10 ans, on en a fait des concessions. On en a fait sur la CSG, on en a fait sur le nombre de personnel, sur l'augmentation des lits, les jours fériés. On en a fait sur beaucoup de choses, sur le changement des horaires. Maintenant, on n'a plus de vie de famille, on nous a mis l'organisation de ton travail. Maintenant, une infirmière doit passer 12 heures au travail, elle se lève à 4h30 du matin, elle rentre à 21h le soir, elle a plus de temps pour sa famille, pour ses enfants. Les gens n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués parce qu'à force de trop demander, de tirer sur la ficelle, c'est plus possible, à craque. Si les gens ne sont plus en bonne santé, comment on fait? Ben, le pays ne marche pas, hein. Les gens ne travaillent pas, les gens ne peuvent pas, c'est plus possible. Eh oui.
Votre prénom alors?
C'est Naïma.
Naïma, merci Naïma.
Je vous en prie.
L'hôpital est-il en état d'urgence?
En 10 ans, le ministère de la Santé a réalisé 7 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'hôpital public.
Pour faire face au déficit de la sécurité sociale, l'État impose à ce service public d'être géré comme une entreprise privée.
Le gouvernement demande encore 1 milliard d'euros d'économies à l'hôpital.
À Paris, deux défilés sont en train de converger vers la place de la Bastille, celui des cheminots partis de la gare de l'Est et celui des fonctionnaires au départ de Bercy.
Alors, il y a eu un petit mouvement de foule là et puis...
Ils viennent de virer Olivier Faure, là, le nouveau patron du PS.
Ah, et qui alors?
Olivier Faure.
Olivier Faure. Ah, il n'est pas resté longtemps, c'est ça? Il a essayé d'intégrer le cortège. Il y a beaucoup de monde sur le boulevard Magenta, on va pas tarder à arriver place de la République.
Grève générale, c'est ça la solution contre Macron. Macron, président des patrons. Et ça, ça, solidarité avec les cheminots.
Ah, c'est le Front Social, c'est ça? Gaël qui rentre.
C'est le Front Social, il y a un point fixe qui se tient ici à la manif des cheminots et un autre à la manif de la fonction publique, puisque... Malheureusement, les deux manifestations ne partent pas ensemble.
Mais se rejoignent quand même.
Elles finissent à Bastille. C'est une bonne chose, mais si on veut gagner contre Macron, il faut que public-privé par la grève. C'est l'arme qui va permettre de gagner face à la politique de Macron. Et comment faire pour gagner? On sait que malheureusement, il va falloir que les salariés, qu'ils soient à la poste, qu'ils soient dans l'éducation nationale, dans des boîtes de l'automobile, il va falloir qu'on se mette en grève. Et cette discussion-là sur la stratégie pour gagner, elle est indispensable d'être discutée dans toutes les sphères. 50 ans après mai 68, si on veut gagner, il faut renforcer la grève, la mobilisation générale. Et c'est cette stratégie-là que l'ensemble des organisations politiques, syndicales et sociales doivent discuter. Est-ce qu'on se construit la grève reconductible, oui ou non, pour gagner face à Macron ?
On lâche rien ! 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 On lâche rien !
Comme un briquet court.
Ouais.
Attention, ça c'est pas un briquet court, hein. C'est un briquet dur et il va durer, hein. Et il va durer, hein.
Mais juste, c'était la chanson que vous étiez en train de chanter juste avant, là, c'est ça?
Et puis ça, c'est notre slogan à nous, ça.
Que nous avons préparé.
En fonction de l'actualité, hein.
C'est quoi votre prénom?
Yves.
Monique.
C'est une amie, on se connaît bien.
Moi, je suis retraitée assurance, dans le privé. Donc, je viens soutenir le public et je suis pour le service public de qualité.
Alors, vous êtes cheminote?
Femme de cheminot.
Moi, je suis fonctionnaire territorial. Et je suis fier de l'être.
Alors, en péril, la fonction territoriale?
Oui, aussi, comme les cheminots. Parce qu'ils ne veulent plus embaucher. Et les vacataires, elles seront sous contrat. Comme ça, quand on n'en aura plus besoin, dehors.
Mais vous avez choisi de venir à ce cortège plutôt qu'à l'autre, la fonction publique.
Eh ben oui, parce que mon mari était cheminot. Je supporte les cheminots. Voilà, on se soutient, on se mutuellement.
Et on se retrouve tous, place de la Bastille.
Voilà, c'est ça. Merci.
Est-ce que vous avez envie d'en défendre les cheminots?
J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Ah non, le simple possible. Ah pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Ah non, le simple possible. Ah pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, repense à moi. Besoin de toi. Hey, la 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 la.
Je veux un poste, pas possible. Je veux carte postale, pas possible. Je veux fonctionnaire, pas possible. Je veux l'infirmière, pas possible. Je veux camionneur, pas possible. Je veux professeur, pas possible. Je veux éclusier, pas possible. Je veux le but, ça c'est possible. La 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 la.
Aujourd'hui, notre colère s'exprime dans la rue, tout autant que nos exigences.
Alors là, c'est le point de rencontre hein, du NPA ici, dans le cortège, donc cortège cheminot. Hein. C'est important ce qui se joue aujourd'hui, justement d'essayer de recréer un front commun à gauche, c'est ce que vous avez mis en route, en chantier en tout cas.
Ah oui, non, parce que c'est extrêmement important pour encourager, soutenir les mobilisations, faire en sorte que les manifestations se transforment en grève et qu'un rapport de force permette de faire reculer le gouvernement.
Olivier Besancenot, il y a une convergence syndicale, il est temps de faire une convergence politique aussi à gauche, non?
Bah, elle a commencé, puisqu'on a commencé à se voir hier. On va se revoir après la manifestation pour discuter de la possibilité justement de soutenir concrètement les cheminots qui vont se mettre en grève. On sait que ça va être un conflit dur. Et donc, par exemple, attention.
Les cheminots comme une locomotive de la résistance à la libéralisation.
Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais en tous les cas, c'est clair que la bataille qui va s'enclencher, il faudra voir comment on peut être utile pour eux. Et elle, voilà, en faisant des caisses de grève où tout peut être discuté, mais voilà, on va mettre ça.
Il y a 6 mois, nous avions promis de transformer le pays. Depuis, nous avons bien avancé.
Thomas Porcher, justement, avec l'élection de Macron, et depuis son élection, on est arrivé à toute une série de mesures qui, vous le décrivez très bien dans votre bouquin, sont celles qui sont prescrites depuis les années Thatcher. C'est presque une guerre d'usure, en fait. Toutes ces mesures néolibérales appliquées dans les années 80, voilà que finalement, elles arrivent en France. Alors, en bout de course, c'est pas des idées neuves.
Non, c'est absolu. Alors déjà, la première chose, c'est que ces idées, on les a déjà plus ou moins appliquées en France. Alors on n'a jamais été aussi loin qu'Emmanuel Macron, mais on a déjà été dans ce sens. Quand j'entends, moi, Benjamin Griveaux qui vous dit comme ça, à une heure de grande écoute, devant tout le monde, ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait en France.
La dette qui a été contractée, faute de choix politique courageux, ces 30 dernières années.
Il vous dit ça, bah, vous regardez la Commission européenne, elle note les réformes sur le marché du travail. Entre 2000 et 2013, elle en note 165.
165, quoi.
165. Sur la seule protection de l'emploi, elle en note 17. Donc, ça fait. On a allégé les protections sur les travailleurs. On a fait plus de 17 réformes c'est en 13 ans, entre 2000 et 2013.
On fait plus dans le genre immobiliste, quand même.
Oui, complètement. Là, ce sont des faits. C'est la commission qui les note. Donc, dire qu'on n'a pas fait de réforme depuis 30 ans est parfaitement faux. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde la protection d'un salarié français dans les classements de l'OCDE, on est au coude à coude avec la Corée du Sud. Donc, on n'est pas le pays le plus protégé du monde, le pays le plus feignant, le pays qui travaille. C'est des bêtises, tout ça. Quand on regarde les chiffres.
Et notre productivité supérieure à ceux de nos voisins allemands.
Exactement, nous avons une des productivités horaires les plus élevées au monde. Donc quand on vous dit ça, l'idée qu'on essaie de vous faire croire, c'est qu'il faudrait encore aller plus loin dans ces réformes-là. Et des pays ont été plus loin. Alors regardons ces pays qui ont été plus loin et tirons les conséquences. Quel est le résultat de ces 30 ans ? Vous avez vu, aux États-Unis, les inégalités ont augmenté très fortement. Trump a fait sa présidentielle sur les inégalités, sur les gens qui étaient exclus de la mondialisation. Au Royaume-Uni, pareil, le Brexit, ça a été alimenté par les inégalités, par la politique libérale qui a été mise en place. Donc, je veux dire, les libéraux qui vendent ce type de politique comme une politique qui profiterait aux plus faibles, etc., ils devraient regarder sur ces deux pays qui ont été les leaders, hein, le capitalisme Reagan-Thatcher. Voilà, on a la finalité, le Brexit et Trump qui a été porté au pouvoir par des gens qui ont été exclus vraiment du marché et de ces politiques libérales. Tirons les conclusions et vous verrez que c'est loin de ce que nous dit aujourd'hui Emmanuel Macron et son gouvernement. Les conséquences, nous les connaissons tous. Le chômage peut s'améliorer de manière un peu cosmétique sur les chiffres, laissant place à une armée de travailleurs précaires qui travailleront quelques heures par-ci, par-là, mais qui ne seront pas dans les chiffres du chômage. Et voilà. Et donc les politiques que met en place Emmanuel Macron en baissant la fiscalité sur les plus riches, en baissant la fiscalité sur les revenus financiers, en baissant la fiscalité sur les entreprises qui va profiter en grosse partie aux grosses entreprises et aux actionnaires, Emmanuel Macron il va faire en sorte que ce gâteau qui va être créé, cette richesse, elle va être encore plus captée par les 1% plutôt que par le reste de la population. Donc voilà, la conséquence, on la connaît.
Macron, c'est Margaret Thatcher. Quand il était allé en Grande-Bretagne, il avait dit la Grande-Bretagne a eu la chance d'avoir Margaret Thatcher. Il veut nous imposer cette malchance à nous.
Alors Gérard Filoche, il y a une possibilité là d'union de front commun à gauche d'après toi ?
Vous avez bien vu, on a été 12 organisations à signer. Le communiqué est assez riche, il est bon. On a envisagé, se propose de faire des déclarations et des tribunes ensuite au fur et à mesure du mouvement. Et voir des meetings communs, ça a été une première discussion. Je trouve ça excellent. Parce qu'il y a 3 niveaux d'unité, il y a l'unité que font les salariés, il y a l'unité que font les syndicats, mais il faut aussi une unité des partis politiques.
L'envolée, l'envolée, partage du temps de travail, partage des richesses.
Et là on arrive en tête de manif, on est du côté du cercle d'hiver. Effectivement, ça commence à chauffer un peu, il y a un petit cortège de tête qui est là. Et il y a une petite charge là de CRS.
Le monde déteste la police. Le monde déteste la police.
Il y a beaucoup de lycéens là, il y a des jeunes avec des cagoules.
Je suis venu avec rien.
Ah, c'est reparti là, ouais, on se fait bombarder.
Ça va trop vite ! Arrêtez-vous ! Oh !
L'occasion de ne plus être seul. Une occasion se présente pour tous ceux qui voient dans leur vie même ce monde rendu à ses extrémités. Le minimum est de la leur confirmer comme tel. C'est-à-dire... Oula, c'est parti là, oula, 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 oula. Aïe. Que peut être la politique sinon la production d'affects communs et de causes communes? Les pouvoirs, eux, le savent bien, qui travaillent en permanence à produire de l'isolement. Alors c'est dans les blocs du Diplo. Frédéric Lordon, le 20 mars 2018, ordonnance SNCF, l'occasion. Mais de temps en temps, une fusée vient trouer la chape. À nouveau des gaz lacrymo.
C'est tout le monde. C'est la police. C'est tout le monde.
C'est tout le monde.
Tous les jeunes là, du cortège de tête se masquent.
Allez-y, n'hésitez pas à y aller.
Et on rentre dans un hall d'immeuble. Tout le monde vient se protéger. Oh là, il y a un gros nuage là, ouais.
On se masque là pour se protéger des lacrymos.
Et on peut ressortir. La convergence des deux cortèges va se faire, mais dans la difficulté quand même. Il y a une agence bancaire HSBC bombardée de boules de peinture. Alors Loïc Canitro, il y a du monde aujourd'hui dans la rue là quand même.
Mais oui, on a l'air très nombreux, il y a une belle énergie et on est nombreux à être venus soutenir les cheminots, soutenir les fonctionnaires, mais on est très nombreux à n'être ni de la fonction publique, ni cheminots, et à penser des conversations qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant que l'attaque contre les cheminots ou contre les services publics, elle c'est une attaque contre tous. Et donc voilà, moi je suis intermittent, chômeur à mes heures et je me sens beaucoup, tout à fait dans la même mobilisation que ces cheminots. Il va falloir qu'on réussisse à expliquer, nous tous les salariés du privé qui sommes aussi concernés et mobilisés, que voilà, cette attaque elle nous touche aussi. Il va falloir qu'on arrive à nous faire entendre tous. Voilà. Aujourd'hui on soutient les cheminots clairement et on se bat et pour leurs conditions de travail et pour nos conditions d'usagers. Mais il faut aussi qu'on arrive à faire entendre que toute la population, tous les travailleurs sont concernés par ces attaques. Alors quelle forme ça peut prendre, on a tout à inventer. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste forcément dans les cadres existants, qu'on aille lancer des initiatives, qu'on se rencontre, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on construise ensemble. Ça s'est déjà beaucoup amorcé ces dernières années. Et je pense que
avec Nuit Debout, par exemple.
Par exemple, effectivement, Nuit Debout a été un moment de rencontre, de réflexion, de retour à la politique dans son meilleur sens du terme. Pour des milliers de personnes, les gens ont pu maturer un petit peu tout ce qu'on avait partagé. Beaucoup de gens ont dit que c'était un échec puisque ça n'a rien donné, mais je pense que ça peut donner des choses à beaucoup plus long terme.
Avec 2000 suppressions d'emplois par an depuis 2 ans, tous les services sont frappés.
Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la majeure rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir. Quand on n'a rien pour soi que l'échec de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je vais les rues, je vais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux n'en est ma voix pas. Je comme moi qui n'ont l'air de rien. Des esclaves en désolire qui n'en pensent pas moins. Je fais le mort, je fais la guerre, je fais celui qui existe. Mais dans l'ombre du miroir je ne vois que des tristes. Parano dans les rues, putain je parle sale. Toxique au pognon, je vais droit au cercueil. En or s'il vous plaît je voudrais qu'on m'inhume. Mais j'ai les moyens que de la fausse commune. Un jour c'est vrai je vais finir par me trouver un. dauphin. Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Cette semaine, beaucoup de gens parlent de la SNCF et des ordonnances, mais après, il va y avoir l'assurance chômage et la santé. Puisque vous dites, Thomas Porcher, que c'est un corpus idéologique qui est à l'œuvre depuis maintenant 3 décennies et que les lois qui nous sont appliquées aujourd'hui sont la continuité de celles qui vont dans le sens de libéralisation. Il y a aussi l'éducation qu'il faut qu'on voit. À quoi ça peut ressembler un futur proche si toutes ces mesures continuent de s'appliquer, sans regarder les conséquences qu'elles ont eues ailleurs?
Eh bien, ce sera un futur plus inégalitaire. Je pense que sur les écoles, il faudra qu'on marque liberté, inégalité et peut-être un peu fraternité, mais quand il y a inégalité, il y a rarement fraternité. Je veux dire, vous avez aujourd'hui des régions au Royaume-Uni où l'espérance de vie diminue fortement. Alors, vous imaginez que ce n'est pas les régions les plus riches. Et donc, quand vous n'avez pas de modèle social, quand on coupe dans la dépense publique, je veux dire, aujourd'hui, le taux d'enfants naissant dans une famille pauvre, si vous regardez que les revenus, il y en a 24% en France, 24% d'enfants qui naissent dans des familles pauvres. Grâce au modèle de redistribution à la française, l'aide au logement, les allocations, on passe de 24% à 7%. Donc aujourd'hui, grâce au modèle social français,
ce qu'on appelle l'assistanat,
voilà, l'assistanat, ce qui est lourd, ce qui n'empêche la croissance, on passe de 24 à 7% d'enfants vivant dans des familles pauvres. C'est quand même quelque chose de génial. Et on va s'attaquer à ça. Donc les inégalités vont fortement augmenter. Et si elles augmentent, c'est toujours les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de switcher entre le privé et le public en fonction de leurs besoins qui vont être les premiers touchés. Si vous n'avez pas un socle social fort et que vous êtes pauvre, vous allez attendre très longtemps aux urgences, très longtemps au commissariat, etc., quand d'autres auront des accès plus rapides parce qu'ils paieront plus cher, tout simplement. À tous les niveaux, y compris à la SNCF, vous allez prendre le TGV pour les riches, le car pour les plus pauvres, le train en 77 pour les moins pauvres. Enfin, voilà, on va être vers une segmentation. Vous allez à la poste, vous avez le timbre rapide pour les plus et le timbre à une semaine pour ceux... Et voilà, on va être comme ça. On va être sur une différenciation, comme dans le secteur privé, avec ceux qui ont les moyens d'aller vite et de bien se soigner, de bien manger, etc., qui, eux, leur vie ne changera pas, et les plus pauvres qui n'ont pas les moyens. Et on se dirige vraiment vers ça.
L'éducation doit rester nationale. L'éducation doit rester nationale. De la maternelle au baccalauréat.
Alors,
vous êtes enseignante?
Tout à fait, on est professeur des écoles et syndicaliste force ouvrière dans le 92. Camille et Julie. Et aujourd'hui, nous sommes en grève pour protester contre la dégradation de nos conditions de travail, contre les rythmes scolaires et contre la tentative de territorialisation de l'école qui a commencé par la réforme des rythmes scolaires et qui se poursuit avec la menace sur les écoles maternelles. En fait, c'est la même politique, la politique d'austérité, ça conduit à casser le service public. On commence par les cheminots, et puis on continue avec les hospitaliers, on finira avec les enseignants. De toute façon, on est dans le même bateau, et on sait très bien que s'attaquer au statut des cheminots, c'est prendre la température de la grogne sociale, hein, comme on dit. Et on sait très bien que si ça marche avec les cheminots, on est les prochains dans la ligne de mire. Donc on ne veut surtout pas laisser de la place. Et voilà, on veut se faire entendre.
Est-ce qu'on la voit, cette politique justement de la dette dans l'éducation nationale, dans votre quotidien?
Ah oui, on voit la politique de la dette dans notre quotidien. Il y a énormément de fermetures de classes dans plein d'écoles. Dans le 92, c'est plus de 70 fermetures de classes. Donc ça fait des classes où il y a 31 ou 32 élèves. Alors si on veut revenir aux années 60, il n'y a pas de souci, mais on ne fera pas de l'éducation et de l'instruction.
Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus instruire, on ne peut plus pratiquer notre métier correctement, puisqu'on n'est plus remplacé quand on est malade, on n'a plus le droit d'être malade. On a aussi des enfants qui auraient besoin de soins, qui ne sont plus accueillis dans des établissements spécialisés parce qu'on les ferme. Tout ça réunit les conditions pour nous empêcher d'enseigner.
Alors si on écoute les éléments de langage du gouvernement, cette manifestation est prévisible de personnes privilégiées, arc-boutées sur leur statut.
Bah eux, ils défendent lequel? Ils défendent le fait que, de toute façon, un service public... la France a trop de fonctionnaires, ça on le sait déjà depuis 20-30 ans. Et à qui ça, qui profite le crime, hein, de démanteler le service public? Ça sert surtout à respecter la règle des 3% de déficit de la dette publique imposée par le traité de Maastricht. Après, qui est derrière l'Union européenne, le FMI et tout ça, c'est clairement la classe dirigeante que nous qualifions de capitaliste. tout le monde constate, hein, on ne peut plus faire soigner ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Dans les maisons de retraite, c'est la débâcle. Dans les hôpitaux, c'est la débâcle. Maintenant, dans les écoles, donc forcément, ça touche chaque Français, ça touche tout le monde. Après, c'est une vision de la société. Est-ce qu'on veut une société où tout est payant, tout est privatisé, ou est-ce qu'on veut que nos impôts financent un service public de qualité pour tous? Moi, je pense que le progrès de l'humanité, c'est plutôt que chacun puisse vivre dignement dans des conditions correctes.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, je suis tout à fait d'accord.
Au revoir.
Au revoir.
Cette réforme est donc en route. On va parler d'éducation à présent, avec toujours la colère dans beaucoup d'endroits à cause de la prochaine carte scolaire.
Sujet qui sera potentiellement explosif.
Oui, c'est l'école.
Des manifestations contre les fermetures de classes de primaire se multiplient dans de nombreuses communes rurales.
Et toujours à la une de l'actualité, une manifestation de parents d'élèves et d'enseignants pour protester contre les nouvelles suppressions de postes prévues dans l'éducation nationale.
Suppression de plusieurs centaines de classes, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Ça, c'est pour la prochaine rentrée.
Le ministre Jean-Michel Blanquer a essayer de rassurer les gens ce matin.
Il y a bien entendu des classes qui ferment. Il y a toujours eu des classes qui ferment et ce sera toujours vrai dans le futur. Mais il y a aussi des classes qui ouvrent.
Jusqu'à où ça peut aller? Parce que on disait, c'est une course de fond là qui est en train de se finir. C'est commencé dans les années 80 et qui en France s'achève enfin, diront certains. Enfin, la France se modernise. Mais voilà que cette semaine commence une série de mobilisations qui vont s'étendre, peut-être pas. En tout cas, qu'il y a un bras de fer qui va continuer. Pendant que le gouvernement continuera à proposer d'autres réformes dans d'autres secteurs, quelle issue possible et quel levier possible pour contrarier ce mouvement?
Moi, je pense que la manifestation, c'est un rapport de force. Sincèrement, au fond de moi, je pense que plus les manifestations sont fortes, plus les blocages sont forts, plus il y a une chance de gagner. Pourquoi ? Parce qu'en 95, ce qui a fait que Juppé a lâché, c'est qu'à un moment, même le patronat lui a dit de mettre la pédale douce parce que l'économie était trop bloquée. Donc, il y a toujours un moment où la partie prenante, même le patronat, dit au gouvernement « lâchez prise, là, un petit peu ». Surtout qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient avec Macron, là, ils ont été largement... déjà, le Père Noël est déjà passé. Donc, ils pourraient dire, là, si la mobilisation est forte et qu'elle pénalise trop l'économie, à un moment, elle pourrait dire de lâcher prise et de revoir la réforme. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas Emmanuel Macron, parce qu'il a un projet derrière d'aller encore plus loin et de tout refaire. Je vous dis, l'assurance chômage, la sécurité sociale, il veut tout refaire, tout remettre à plat. Je ne vois pas lâcher. Mais en même temps, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui sont déçus. Alors les retraités sont déçus, les étudiants sont déçus, ils ont raté leur mouvement de début d'année.
Parce que les uns se sont vu renier l'APL, le statut de l'université, et les autres ont la hausse de la CSG.
Voilà,
et
puis les fonctionnaires sont aussi fâchés quand même. Et donc vous pouvez avoir une convergence des luttes qui pourrait amener vraiment à un combat. Mais là, je pense que le combat sera rude. Mais il faut tenir bon, parce que là, Emmanuel Macron, il dit qu'il concerte. C'est pas des concertations. Je veux dire, les syndicats peuvent parler, mais ils sont pas écoutés. On l'a bien vu avec la loi travail. C'est pas ça, une concertation. Ils leur disent ce qu'il va faire et puis ils leur donnent pas trop le choix. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc là, la convergence pourrait faire peut-être que il y aurait un effet boule de neige. Mais sur les mobilisations, c'est toujours très difficile à prévoir. Mais là, on touche vraiment à quelque chose de symbolique, la SNCF. Et si la SNCF passe, après, je pense que tout passe. Donc vraiment là, c'est le barrage, c'est maintenant ou jamais. Ce sera pas dans un an, c'est maintenant ou jamais.
Diplomatie, quoi. Le roi soleil est de retour. Il n'est pas mort.
Contre la réforme, on est en pleine forme. La force des travailleurs, c'est la grève. Agive, convergence des reportages.
Ça va?
Ouais, ça va. Ben, on arrive, nous, de Gare de l'Est. Le gros du cortège arrive. C'est GT cheminot, quoi.
Parce
surtout.
Que nous, arrivé depuis le ministère de l'économie et des finances, c'était très tranquille. C'était des cortèges syndicaux, par branche, par secteur d'activité, CGT, FO, CFDT, même CFTC, principalement autour du mot d'ordre de défense des services publics, même si la préoccupation des cheminots était la préoccupation commune. Mais ce qui me surprend, c'est que voilà, maintenant arrivé à Bastille, la convergence, c'est chacun repart dans son car, semble-t-il.
C'était comme un bruit qui court. Quel printemps pour 2018? Grève reconductible ou grève perlée? Y aura-t-il un joli mois de mai? En attendant, toutes les informations sont sur le site de franceinter.fr et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.